Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. Vous nous écoutez à la radio sur RMC, vous nous regardez à la télé, RMC Story, canal 23 de la TNT. En tout cas, on est très heureux de passer ces 3 heures avec vous. Et aujourd'hui, autour de la table, vous retrouverez Charles Magnin. Bonjour Charles.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Il y a également notre nouvelle chroniqueuse, c'est la journaliste et essayiste Tristan Bannon. Ça va Tristan?
Très bien, bonjour Estelle.
C'est un peu l'intellectuel du plateau, enfin je ne sais pas ça pour vous autres. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle relève un peu le niveau. Je suis très contente de l'avoir.
Oui.
Même si les autres sont aussi très cultivés et très intellectuels. Oui, nous avons notamment notre professeur d'histoire géo, Benjamin Amar. Ça va, Benjamin?
Ça va, Estelle? Oui. Très bien. C'est sympa cette accroche.
Oui. Je cherchais un truc sympa à dire et voilà, j'ai trouvé ça. Bon, bah écoutez, je trouverai autre chose la prochaine fois. Et puis nous sommes avec la journaliste à l'accord, avec Juliette Briand. Ça va, Juliette?
Oui, très bien, merci.
Dans un instant, dans Estelle Midi, on se demandera s'il faut diffuser le film L'Abandon sur les derniers jours de Samuel Paty dans tous les collèges et lycées de France. Appelez-nous et donnez-nous votre avis au 3216. On parlera également du ras-le-bol des seniors maltraités, selon eux, en entreprise. Mais pour vous, un quinca au boulot, est-ce que c'est un cadeau ou un fardeau? Vous avez quel âge, Benjamin?
J'ai 50 ans.
Eh bien, très bien, nous en parlerons. Et puis, c'est la journée. Vraiment, c'est la journée. Hein.
Cette émission commence. Et, puis... et vous, Estelle?
49, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, mais rien à voir. Et puis, culture, musique, politique. Y a-t-il trop de fils d'eux aujourd'hui dans la société à des postes importants? Ben, ça aussi, on en débattra avec vous, notamment sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
Le 0612 424 424, c'est le numéro sur WhatsApp pour tous vos messages qu'on lit en direct.
RMC Estelle Midi.
Midi 5 sur RMC, on démarre Estelle Midi tout de suite avec la demande du jour et c'est celle de plusieurs personnalités qui réclament que le film L'Abandon sur les derniers jours de Samuel Paty soit diffusé dans les collèges et les lycées. Le film a été présenté à Cannes il y a quelques jours, il connaît un bon démarrage en salle avec de très bonnes critiques et suscite de très nombreuses réactions, Charles.
Oui, la sœur de Samuel Paty, Michaël Paty, l'a dit la semaine dernière sur RMC, elle veut que ce film soit diffusé dans les classes pour permettre que sa mort serve à quelque chose, dit-elle. Même volonté de la part du coproducteur du film, Stéphane Simon, qui a plaidé lui aussi sur RMC pour une diffusion auprès des élèves de 4e et de 3e, l'âge auquel se forge l'esprit critique, dit-il. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a vu le film, il a d'ailleurs tweeté au lendemain de sa sortie, un ton juste, une même émotion partagée, écrit-il, un film pas comme les autres pour la communauté éducative. En revanche, il ne se prononce pas sur la diffusion éventuelle du film en classe. Pourtant, certains élus, y compris dans son propre camp, le pressent de le faire, à l'image de la députée macroniste Prisca Thévenot. Un peu moins d'une semaine après sa sortie, le film approche des 200 000 entrées en salle avec des notes spectateurs très élevées sur les sites du GC ou bien Allociné. Même si à Cannes, il faut le dire, une vidéo fait polémique. On y voit des streamers, des influenceurs s'en prendre au film à la sortie de la projection. Un film pour l'extrême droite. Les musulmans se font taper dessus, disent ces influenceurs.
Alors, faut-il diffuser le film L'Abandon dans tous les collèges et les lycées? Je me tourne vers vous, Benjamin Amar. Je sais, vous avez vu le film hier. Vous êtes professeur d'histoire géo, donc forcément, ça un écho un petit peu différent pour vous. Est-ce qu'en tant que prof d'histoire, justement, vous vous dites « Ok, c'est un film salutaire, c'est un film d'utilité publique qu'il faut diffuser dans tous les collèges et les lycées ?»
Alors moi, je l'ai vu, franchement, le film est non seulement poignant, mais il est criant de justesse. N'importe quel prof de France et de Navarre, il voit que le climat d'un établissement scolaire est parfaitement relayé. Voilà. Et moi je connais un peu le dossier parce que ce drame m'a marqué comme beaucoup de collègues, donc j'ai suivi de près les enquêtes, les procès, etc. Et de toutes les façons, quoi qu'il advienne, moi j'amènerai mes élèves le voir. Je vais essayer de voir si je peux les amener là tout de suite dans les semaines qui viennent.
Vous avez demandé l'avis des parents?
Mais il n'y a pas besoin de demander l'avis des parents. Moi, quand j'emmène des élèves en sortie scolaire voir une pièce de théâtre ou voir un film, on ne demande pas l'avis sur le film.
Vous dites, on va voir les fourberies de Scapin.
Bien sûr.
Là, vous allez dire, je vais voir L'Abandon.
Exactement.
Est-ce que vous pensez que tous les parents vont dire à leurs enfants,
il y a deux choses. Si c'est sur temps scolaire, c'est obligatoire. Si c'est hors temps scolaire, c'est facultatif.
D'accord.
Moi, je vous le dis, sur ces questions-là, je suis très ferme.
Okay.
Voilà. Le sujet, vous savez, ce drame-là qui est arrivé, moi, je ne m'imaginais pas une telle barbarie, bien évidemment. Mais, vu le climat qu'on avait depuis un certain nombre d'années, on pouvait se douter que très probablement, moment, une sale histoire allait arriver. Et ce qu'a fait Samuel Paty, il a appuyé là où ça fait mal sur un sujet important, sur la question la question du blasphème. Il l'a fait avec beaucoup de courage et le film montre magistralement comment il a été lâché en race campagne. Et ce drame-là qui n'aurait jamais dû arriver doit marquer clairement d'une pierre blanche l'histoire de notre pays sur ces questions-là. Il n'est plus question de tergiverser sur quoi que ce soit. Et moi d'ailleurs, tous les 16 octobre, je fais avec toute la journée, avec toutes mes classes, je consacre mes cours à ce qui s'est passé, au drame qui a concerné Samuel Paty. Voilà. Et je le fais, avec beaucoup de fermeté. Voilà. Et je ne veux rien entendre, et je le dis clairement à mes élèves, hein. Je ne veux rien entendre sur l'histoire de... Alors, parce que tous les élèves vont vous dire, il fallait pas le tuer, c'est pas bien, mais vous pouvez entendre des trucs du genre, oui, mais il a montré des caricatures. Et moi, là-dessus, je suis d'une fermeté implacable, et je l'assume. Il n'y a pas à discuter.
Tristan Baoum, moi je vous ai eu samedi soir, je suis allé voir le film samedi soir, je vous ai eu parce que vous êtes en train en fait d'écrire une pétition justement pour que ce film soit diffusé dans les collèges et les lycées, mais vous avez du mal à écrire cette pétition, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Je vais surtout prendre deux minutes pour vous expliquer pourquoi ça a évolué. Alors d'abord, j'ai eu du mal à l'écrire parce que choisir les mots pour fédérer au maximum autour de cette histoire, c'est compliqué. Il y a des mots qui braquent, on le sait, autour des questions de liberté d'expression, de laïcité, d'islamisme. Tout ça, ce sont des notions qui sont compliquées à manier sans braquer de part et d'autre. Et le but, c'était de fédérer un maximum de personnes. Ma première idée, ça a été de faire cette pétition à l'intention du ministre de l'Éducation nationale, ce qui paraissait... pour qu'il y ait une décision venue d'en haut pour décharger les professeurs de la responsabilité justement d'emmener leurs élèves voir ce film. Et puis pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec beaucoup d'acteurs qui sont directement liés à ce sujet et je me suis aperçue en fait que c'était sans doute pas la bonne méthode. D'abord parce que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas possibilité d'obliger des professeurs, vous êtes bien placés pour le savoir, à faire voir un film à leurs élèves.
C'est la liberté pédagogique.
Ensuite, parce que si on veut aider les professeurs, en réalité, il faut convaincre les parents d'aller voir le film et de demander à leurs professeurs de leur montrer qu'ils sont en soutien, parce que les professeurs se sentent toujours en première ligne. Ils se sentent toujours mis en avant pour remplacer le travail d'éducation. Et il faut que les parents montrent qu'ils sont en soutien, qu'ils seront derrière les professeurs, qu'ils leur demandent « emmenez la classe de mon élève le voir ». Et à partir de là, il y a un site internet qui existe, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Zéro de Conduite. Les professeurs peuvent s'y connecter. Et s'ils s'y connectent, ils peuvent obtenir la diffusion du film pendant un an à compter d'aujourd'hui, dans n'importe quel cinéma, y compris un cinéma qui a refusé la diffusion initiale du film, et ils peuvent emmener leurs élèves le voir. Et c'est important, et donc cette pétition que j'ai commencé à écrire samedi, qui a été très compliquée à écrire, va devenir plutôt une lettre ouverte aux parents des enfants de France pour qu'ils emmènent leurs enfants et qu'ils soient derrière leurs professeurs et qu'ils aident leurs professeurs à emmener leurs élèves et qu'ils leur montrent qu'ils sont en soutien, qu'ils ne sont pas seuls en première ligne sur ces questions.
Juliette Briens, est-ce que c'est à l'Éducation nationale ou est-ce que finalement c'est aux parents d'amener leurs enfants voir ce film? Parce que quand on a 13, 14, 15 ans, bah, on est mineur et c'est quand même les parents qui ont la responsabilité de l'enfant. Et quelque part, si les parents n'ont pas envie que leurs enfants voient ce film, c'est aussi leur droit. Donc est-ce qu'il faut les obliger, entre guillemets, en faisant que l'Éducation nationale diffuse de films, ou est-ce que c'est aux parents de décider?
Moi, mon problème, c'est plutôt, je ne pense pas que des élèves de collège aient besoin de regarder des films en classe pendant leur temps de scolaire. Et je sais que ça paraît bête, mais en fait, à chaque fois qu'il y a une série ou un film un peu pédagogique ou sur un sujet important qui touche les adolescents, comme Adolescence sur Netflix, on se pose la question immédiatement, premier réflexe, faut-il diffuser Adolescence, la série Netflix, dans les classes? Bah, moi, je ne pensais pas à l'époque qu'il fallait le faire et je ne pense toujours pas qu'il faille le faire aujourd'hui. Effectivement, alors ceci dit, une sortie scolaire, extrascolaire, accompagnée d'un professeur, je trouve que c'est une excellente initiative et je ne vois rien à redire. Mais je veux dire, il y a aussi, par exemple, des très bons documentaires qui ont été faits sur Samuel Paty avant le film. Il y a énormément de contenu pédagogique aujourd'hui, que ce soit sur le service public ou ailleurs. On pourrait faire cours toute la journée en diffusant des documentaires Arte, si vous voulez. Je ne pense pas. Pour moi, l'école doit rester un terrain de la théorie, du professeur qui explique dans ses mots pédagogiquement.
On voit comment ça s'est terminé.
Mais
oui. Oui, mais justement, là, c'est un professeur.
Excuse-moi,
c'est un professeur qui explique la liberté d'expression
Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de Samuel Paty à l'école, de l'islamisme et des dangers de l'extrémisme. C'est l'inverse que je pense. Évidemment qu'il faut parler de Samuel Paty à l'école. Je ne pense pas que ça passe par la diffusion d'un film. Normalement, déjà,
il vaut tous les discours.
Un film s'inspire de faits normalement et pas les romances, mais il a une interprétation. Il y a une interprétation artistique d'un fait qui fait que je ne trouve pas que ce soit du contenu adapté à l'école. C'est tout ce que je dis, en fait. Je trouve qu'à la limite, même un documentaire, ce serait mieux. Et encore mieux, le professeur prend le temps en classe d'évoquer le cas Samuel Paty.
Mais ce sera moins fort qu'un film. Tu sais très bien que le prof, combien de temps, je vais vous poser la question, combien de temps un élève, il reste attentif vraiment devant le discours d'un prof? Est-ce qu'il reste plus attentif devant le discours d'un prof?
On peut pas réfléchir comme ça. Sinon, je vous dis, on diffuse H24 des documentaires Arte très bien fabriqués. Classe, et puis
on leur apprend ça un outil pédagogique.
Bien sûr, moi j'ai vu des films sur la Shoah à l'école, je me rappelle encore.
C'est comme si ils nous disaient, faut pas qu'il y ait de livres à l'école, ils sont pas là pour bouquiner, ils feront ça après. C'est un outil, et ensuite c'est aux profs d'expliquer, de débattre, d'écouter les élèves.
Moi j'ai des enfants qui ont vu la liste de Schindler à l'école, j'étais très contente.
Ceci dit, je ne vais pas en faire un combat, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit une priorité déjà pour nos élèves de regarder des films à l'école. Je vais pas en faire un combat pour m'opposer à ce que des élèves regardent L'Abandon en classe. Voilà,
c'est que bien sûr que le cinéma est un excellent support pédagogique. Moi, le documentaire de la sœur de Samuel Paty, je l'ai utilisé comme support, mais j'ai vu le film. On peut tout à fait utiliser le film avec beaucoup de pertinence. Et juste en point quand même, bien sûr qu'il est important d'insister sur les familles, mais il faut que l'école, il faut que l'éducation nationale prenne ses responsabilités. Alors, il faut respecter la liberté pédagogique. Mais par contre, ce film, et faire la promotion de ce film auprès des enseignants, ça me semble indispensable.
Alors, avant de revenir vers vous, Tristan, des messages sur le WhatsApp, Charles,
évidemment,
ça donne quoi?
Beaucoup de réactions. Laurent qui nous dit, moi je vais aller le voir du coup dès demain avec mes enfants. Vous m'avez donné envie en écoutant Benjamin. Je me suis dit que j'allais pas attendre que l'école leur montre, que c'est à moi de leur montrer aussi. Arnaud nous dit, bien sûr qu'il faut le diffuser en classe, qu'il faudrait le diffuser, mais c'est certain que le ministère ne voudra pas, il ne faudrait pas heurter la gauche bien pensante et tous ceux qui se sentiraient stigmatisés par la diffusion de ce film. Même réaction d'Éric qui nous dit, bah oui, mais l'administration aura peur de choquer, peur de heurter, faut mettre la poussière sous le tapis. Et diffuser ce film pourrait créer de nouvelles polémiques, estime Eric.
Oui, alors c'est pas une histoire d'heurter la gauche. Après, on peut aussi se poser la question, à partir de quel âge on diffuse ce film? Moi, franchement, j'ai pleuré pendant de longues minutes après la séance. Toute la salle, là où je suis allée le voir, s'est levée. Tout le monde pleurait. Il n'y a pas une seule personne qui ne pleurait pas. Et en vrai, moi, j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, il faille le diffuser à un enfant de 11 ans. Je sais pas comment ça peut être
Laurence
pris, quoi.
Vous pose la question à ceux qui l'ont vu. J'aimerais y aller avec ma fille, mais elle a 10 ans et je me demande si elle est pas un peu jeune.
Au collège et au lycée. Et y compris au collège, on peut aller voir ce film. Il n'y a aucune scène visuellement de choquante. Il y a un climat oppressant. Mais le sujet, je rappelle que des élèves de collège, ils abordent ces questions-là. Et c'est un très bon outil. Moi, j'encourage pour les collégiens et les lycéens.
Tristan Bana, d'abord, juste pour répondre à un des auditeurs, le ministre de l'Éducation nationale est déjà très, très en appui. Il ne s'est pas défilé du tout. Et juste tout à l'heure, tu disais que à l'école, on devait apprendre que des théories. Et je pense que c'est l'un des problèmes des valeurs de la République, c'est que justement, pour les enfants, ce ne sont que des théories. Et ce film, il permet très exactement de montrer concrètement que ce ne sont pas que des théories et que ce sont des choses qui sont importantes et que les valeurs de la République, elles structurent notre société et qu'elles sont capitales à défendre.
Alors, on a un jeune étudiant en gestion qui est avec nous, il s'appelle Jules et il nous appelle de Bastia. Bonjour Jules.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous avez vu le film L'Abandon, Jules?
Alors, je ne l'ai pas encore vu, je comptais aller le voir dans la semaine.
Ouais.
Pour répondre au débat, ça doit être pour moi la liberté éducative de chaque enseignant. Comme vous disiez, il montre plein de films plus ou moins intéressants par rapport au programme souvent. Mais je vois pas pourquoi il ne pourrait pas montrer ce film. Et comme le disait l'enseignant qui est avec vous, pourquoi demander aux parents? Faut demander oui.
Non, mais les parents, ils ont la responsabilité de leurs enfants. Vous avez 21 ans, Jules, jusqu'à 18 ans, on est sous la responsabilité des parents.
Mais quand c'est sur temps scolaire, on demande simplement à la hiérarchie, on va dire. On demande
exactement.
Pas aux
parents.
Voilà.
Exactement.
Par contre, ce qui me choque, et encore une fois, j'ai pas encore vu le film, donc j'attends de le voir pour en parler plus précisément, mais il y a 6 ans, ça a choqué tout le monde, ce drame. Mmh. Et il y a de quoi, ça a choqué tout le monde. On a eu Dominique Bernard quelques années après.
Bien sûr.
Ça a choqué là encore du monde. Mais aujourd'hui, ça devient un sujet clivant. Comment on peut polémiquer sur la mort d'un enseignant?
Je suis bien d'accord avec vous, monsieur.
On est tous d'accord.
Tout le monde à l'époque, on a dit, c'est un drame. Enfin, c'était vraiment presque pire, et je parle pour faire des comparaisons, hein, mais à côté des attentats, c'était vraiment l'une des pires choses que la France avait connues ces dernières années.
Bien sûr.
Et là, aujourd'hui, on polémique dessus. C'est les enseignants, il y en avait certains, et ça doit être montré dans le film, je verrai, certains enseignants n'ont pas soutenu M. Paty.
Exactement.
Et là, on en a certains, et qui ont vu ce que ça a donné, on en a certains qui disent... ce film, c'est islamophobe et je ne sais quoi. Alors que j'ai lu par contre le livre de la sœur de Monsieur Paty. Il y avait Michael pas d'islamophobie. C'était vraiment.
Il n'y a pas d'islamophobie dans le film du tout. Non, pas du tout.
Et là, c'est une deuxième.
Ce mot est problématique d'ailleurs. Donc pour vous, il faut le diffuser. Merci beaucoup Jules. On poursuit avec des messages, Charles.
Oui, vous êtes très nombreux à réagir, comme Samantha qui nous dit c'est primordial de diffuser l'abandon dans tous les collèges et lycées de France. Je l'ai vu avec mes enfants de 15 et 18 ans. Il ne faut surtout pas oublier, et c'est important à leur âge qu'ils comprennent, nous écrit Samantha. Yaya aussi nous dit, je suis allé voir ce film hier avec mes filles, poignant et criant de vérité. Première fois qu'à la fin d'une séance, un silence de plusieurs minutes s'installe sans que personne ne dise quoi
c'est
que
vrai.
Ce soit à la fin.
Tout à fait vrai.
Exactement. Est-ce que les politiques devraient s'emparer de ce dossier, Juliette Briasse? Parce que là, franchement, on entend très peu de politiques parler de ce film, alors que vous ouvrez n'importe quel, vous ouvrez les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, il y a tout le monde en parle, sauf les politiques. C'est quand même étonnant.
Mais écoutez, moi, ce que j'attends des politiques, c'est qu'ils règlent la question de l'islamisme en France et de la laïcité, en fait. Je suis vraiment désolée. Hein. Encore une fois, moi, ce que j'attends des politiques, c'est qu'ils fassent en sorte que le terreau français n'accepte plus et ne permette plus qu'il y ait des nouveaux Samuel Paty et des nouveaux Dominique Bernard demain en France. C'est ça que j'attends des politiques, pas qu'ils se mêlent de passer des films en classe. Désolé, c'est, non, on n'a pas les mêmes priorités en fait.
Ça contribue, et que les enfants le voient, c'est ça.
Mais
ça
en réalité, dans cette histoire, il y a des hommes politiques qui font des grandes déclarations incendiaires, alors que les choses sont simples en fait, au total. Et bien évidemment, toute la polémique là qu'on a entendue à propos de certains du youtubeur ou influenceur,
enfin, ils sont trois,
ça, exactement, ça n'a aucun intérêt parce que les choses sont très claires. Combattre l'islamisme n'a rien à voir avec la stigmatisation des musulmans. D'accord. Il faut que ce soit clair. Le problème, c'est que certains responsables politiques ont tout mélangé et qu'à la fin, on a des agents, des enseignants en l'occurrence, qui sur le terrain, eh ben, sont confrontés à une réalité dramatique comme Samuel Paty. Donc, il y a le combat contre l'islamisme, contre y compris la propagande islamiste, comme on a pu la connaître dans l'éducation nationale, et la question des musulmans de France qui sont nos compatriotes et à qui il faut foutre la paix. Et ces deux sujets n'ont rien à voir. Et le problème, c'est les responsables politiques qui ont entretenu le flou sur cette question qui pourtant est transparente et cristalline comme l'eau des Alpes.
Et dernière question, juste Benjamin Hamard, rapidement, est-ce que diffuser ce film en classe, ça aiderait les professeurs? On sait que voilà, il y a beaucoup de professeurs qui déplorent le pas de vague. Et est-ce que ça les aiderait ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait les mettre en difficulté?
Je pense que ça les aiderait parce que vous avez là un film qui est totalement conforme à la réalité, hormis quelques éléments narratifs. Et donc, un prof derrière, il peut faire un questionnement avec les élèves qui lui faciliterait, parce qu'il y a des fois des collègues qui sont pas forcément à l'aise avec cette question-là, le support est utile.
Christelle.
Juste à propos du questionnement, justement sur Zéro de conduite, ils ont mis en ligne tout un matériel pédagogique pour les professeurs et qui est parfait par classe d'âge, par spécialité. Franchement, j'invite les professeurs à y aller parce que c'est très, très, très efficace.
Alors, le film L'abandon doit-il être diffusé dans les collèges et les lycées, Charles?
Eh bien, on vous a posé la question sur nos réseaux. Vous avez répondu oui à 85%.
Ouais, donc c'est une très large majorité et on verra si le ministre de l'Éducation nationale entend justement tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe autour de ce film L'abandon de Samuel Paty, qui est un excellent film, franchement, allez le voir. Dans un instant, on va parler des Nepo Babies. Les Nepo Babies, ce sont les filles et fils d'eux qui envahissent en fait certaines couches de la société, le mannequinat, la musique, le cinéma, la politique même. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de fils d'eux aujourd'hui? Bah écoutez, c'est la question qu'on va vous poser dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 27, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours en compagnie de Charles Magnin, de Tristan Bannon, de Benjamin Hamard et de Juliette Briens. Et on va s'intéresser tout de suite à la tendance du jour, et c'est celle des Nepo Babies. Ce sont ces filles et fils d'eux qui envahissent la politique, la musique, le cinéma. Vincent Cassel et Léa Seydoux dans le cinéma, M ou David Hallyday dans la musique, Louis Sarkozy ou Marine Le Pen en politique. On n'a jamais vu autant de fils et de filles d'eux dans l'actualité, Charles.
Rappelons d'abord d'où vient l'expression Nepo Babies. Elle vient des États-Unis. Hein. Nepo étant le diminutif de népotisme, le fait d'user de son influence, notamment pour favoriser sa famille. En 2020, le New York Magazine publiait une longue enquête intitulée « Elle a les mêmes yeux que sa mère et le même agent » dans lequel était pointée du doigt cette génération de jeunes acteurs, de jeunes actrices dont la carrière avait été grandement poussée par leurs parents déjà stars. À Cannes, le sujet est désormais récurrent chaque année. L'an dernier, par exemple, le film « La venue de l'avenir » réunissait pas moins de 7 enfants de stars au casting, parmi lesquels Suzanne Lindon, Sarah Giraudot, Raïka Azanavicius. Cédric Clapiche, le réalisateur, explique qu'il s'en est rendu compte après le casting et qu'il n'allait pas virer un de ses acteurs au prétexte qu'il y avait trop de fils ou de filles dans son film.
Quand il a vu Azanavicius, ça lui a pas tapé dans l'œil.
Il a réalisé après coup. Voilà,
Giraudot non plus.
Qu'il y en avait 7 au casting, mais c'est toute la question.
Et Lindon, il s'est pas dit, tiens, ça me rappelle quelque chose.
Oui, mais c'est à la fin qu'il s'est rendu compte qu'il y avait que ça dans son film.
C'est quand il a regardé les noms au générique.
Mais oui, mais c'est dit, on va pas les retirer au
c'est
fait.
Génial.
Bah oui, mais
c'est
bref, extraordinaire. C'est toute la question, celle de la part de mérite, de talent, et puis celle de piston. Une question encore plus sensible dans le monde de la culture, où les places sont très chères, les décideurs très peu nombreux. En revanche, en politique, le fait de porter un nom célèbre ne suffit pas, parce qu'à la fin, il y a le verdict des urnes, comme on a pu le voir pour Louis Sarkozy lors des dernières municipales à Menton.
Alors, cinéma, musique, politique, y a-t-il trop d'office de... Est-ce que ça vous choque, vous, Tristan Bannon?
Moi, je dois être honnête, ça me choque pas parce que quand on est dans un milieu, on a tendance malgré tout à être sensibilisé à ce milieu. Alors, c'est plus voyant dans les milieux de la politique et de la culture, mais 80% des agriculteurs reprennent l'exploitation de leurs parents. Ça ne choque personne. Dans la boulangerie, je suis allée chercher les chiffres, c'est 25 à 40% des boulangers qui sont eux-mêmes fils de boulangers. Ça ne choque personne. Dans les métiers des cadres, c'est entre 50 et 60% qui font la même chose que leurs parents. Alors, certes, dans les milieux de la culture, ça nous marque plus, mais vous avez dit que dans la politique, quand ils étaient mauvais, finalement, ça ne payait pas derrière. J'ai l'impression que dans le cinéma non plus, quand ils sont mauvais, finalement, ils font pas long feu.
Oui, mais ils ont leur chance.
Ils ont leur chance. Effectivement.
Alors que monsieur ou madame Dupont...
Effectivement, ils ont leur chance. Bah oui. Mais je vais vous dire, alors, pardon, mais aller lancer une exploitation agricole quand vous n'avez pas un père agricole, c'est pas évident non plus. C'est plus facile quand on baigne dedans, quand on reprend les machines de ses parents, parce que c'est des machines qui coûtent très très cher, quand on reprend le terrain de ses parents. En fait, ça ne me choque pas que quand on est né, quand on a grandi dans un milieu, naturellement, on soit ou à contre-courant, ou on prend le contre-pied et on fait totalement autre chose parce que justement, on a vu ce que faisaient ses parents et on veut pas faire la même chose, ou on a été sensibilisé et finalement, et ben, on continue sur cette voie. Ça me choque pas, je dois être honnête.
Ça vous gêne, Julien, de voir autant de fils d'eux et de filles d'eux, notamment à Cannes. Voilà, on a l'impression que tous les acteurs aujourd'hui, ils ont un père ou une mère célèbre.
Moi, je vous cache pas que je trouve que c'est vraiment un sujet de rageux et de jaloux.
D'accord. Fait.
Voilà, parce que dans les fils d'eux et les filles d'eux, c'est comme partout. Il y a des super acteurs et il y a des mecs bidons.
Bah oui,
et je trouve très sincèrement que la couverture de Marianne, elle est mesquine. Voilà, parce que quel est l'intérêt de mettre Léa Seydoux et Vincent Cassel sur cette couverture, en fait? Ils sont pratiquement plus connus que leurs parents aujourd'hui. Ce sont des acteurs accomplis, qui sont réellement talentueux, qui ont fait leurs preuves dans le monde entier. Donc pourquoi les mettre en couve comme ça, en les accusant d'être des Nepo Babies, en gros d'être là que grâce à leurs parents, de ne s'être jamais dissocié d'eux, à part juste pour faire cliquer, pour faire buzzer. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que parmi tous ceux qui sont cités, il y a vraiment des mauvais acteurs et des mauvaises actrices. Je pense pas qu'ils feront long feu. Effectivement, ils ont eu leur chance grâce à leur nom.
Bah ouais.
Mais c'est la vie.
Ah d'accord.
Bon, pour moi, c'est la vie.
Alors, nous changeons rien surtout.
Et la vie est faite de ça. Moi, j'ai certains
on
milieux.
On a qu'à revenir à la monarchie.
J'ai certains milieux où, de par mes connexions, j'aurais plus que de chances que d'autres de faire quelque chose parce que j'ai les bonnes connexions dans ces milieux-là. Je trouve que c'est la vie.
Et je vous ai pas pris parce que vous connaissez vos parents.
La vie, c'est du network, c'est de la connexion. Tes parents, ils sont là pour t'aider, évidemment, pour te donner une avance dans la vie s'ils en sont capables. Et ben moi, je suis pas là à jalouser ceux qui ont réussi.
C'est pas les jalousies.
Ils sont bien partis dans la vie.
Il y a plein de fils et filles de médecins qui deviennent médecins. Par exemple. Mais les parents, ils passent pas le concours à leur place. Ils sont obligés de bosser comme des tarés pour avoir un concours. Mais quand aujourd'hui ton père est réalisateur et que t'as 12 ans et tu dis non, j'aimerais être acteur, et ben papa, il te donne un petit rôle.
Tout le monde n'est pas Léa Seydoux. Vous voyez, moi, je suis allée voir Des Rayons et des Ombres avec Dujardin qui a fait beaucoup de bruit. Et l'actrice principale qui n'était pas du tout connue avant, Nastia Golubeva, qui est la fille de Léos Carax,
donc qui est un réalisateur,
qui est un réalisateur connu. Elle était époustouflante, quoi. Mais d'accord. Elle crevait l'écran.
Mais peut-être que j'aurais jamais.
Mais j'aurais pas voulu que ce soit quelqu'un d'autre. C'était elle était extraordinaire.
Oui, mais peut-être que elle, voilà, pour passer le casting.
Je vais pas commencer à rager parce que son père est connu.
Non, mais en plus, elle est vraiment formidable dans le rôle.
Est-ce qu'elle a fait le taf, oui ou non?
D'accord, mais tu sais très bien qu'il y a les acteurs qui arrivent. Bon, c'est quand même. Et dans la chanson. Non, mais.
Mais oui, mais il y a aussi. Personne ne vous oblige à les écouter.
Et si, bah, encore heureux.
Mais non, mais donc du coup, quel est le problème?
Oui, mais ils ont le petit coup de pouce. Et
alors?
Et bah, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont pas
fils d'eux. Mais tant mieux pour eux.
Fils d'eux. Mais enfin, encore heureux qu'il n'y ait pas des fils d'eux.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut y arriver.
Si t'es fille d'agriculteur et que tu veux faire le cours Florent, bah déjà, tu vas être obligé d'aller à Paris, de te payer un appart, etc. De faire tous les castings, de galérer un max. Et tu vas voir que ta petite copine du cours Florent, qui est la fille d'eux, elle est pas très bonne, mais elle, en revanche, elle va avoir tous les castings.
Si on est fils de médecin, il va pas passer les concours à notre place, mais il va nous faire répéter, alors que si on est fils d'agriculteur et qu'on veut devenir médecin, c'est vachement plus difficile.
Si elle est pas bonne et qu'elle est prise à ta place, effectivement, je trouve ça nul.
Mais c'est subjectif, acteur.
C'est rarement le cas.
Au bout d'un moment,
ça se voit. Je vous dis, dans la liste que vous avez citée, il y en a qui iront pas très loin. Je vous le dis, ils ont eu leur premier petit rôle, ça ira pas plus loin. Je vais pas citer des noms, mais il y a vraiment des.
Ils ont remonté les marches à Cannes. Si tes parents ont fait HEC, tu peux toujours vouloir faire HEC. Si t'as pas les notes, tu ne feras pas HEC.
Et les acteurs aussi passent des castings. Arrêtez.
Tandis que tu peux monter les marches à Cannes et avoir un premier rôle juste parce que papa est réalisateur. C'est un peu différent. Mmh. Tiens, Benjamin Hamard, vous êtes étrangement silencieux.
Je suis totalement...
Que faisaient vos parents, Benjamin?
Pardon?
Que faisaient vos parents?
Mes parents travaillaient... Non, alors, tu te trompes. Mes parents étaient tous sauf des cégétistes.
C'est pas un enfant.
J'ai développé le virus tout seul, comme un grand.
C'est un hobby.
Oui. Je suis contaminé de manière isolée. Je suis auto-contaminé. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, en plus, je vais vous dire, le vrai, pourquoi c'est un sujet clivant? C'est parce qu'en fait, notre société est fondée sur l'idée de la méritocratie, tout le monde part sur le même pied d'égalité. Et le népotisme, c'est le contre-exemple parfait. Et la différence avec certaines professions, comme agriculteur, boulanger, etc., c'est que le népotisme que l'on pointe, c'est celui sur des secteurs qui sont très recherchés, très sélectifs. Être comédien, réussir dans la chanson, c'est le rêve d'une partie de la jeunesse et c'est un parcours du combattant. Et c'est là que le bas blesse. Alors moi, je veux stigmatiser personne. Effectivement, il y a des fils d'eux dans la chanson et dans le cinéma qui sont brillants, etc. Mais vous l'avez dit, la question, c'est que il y avait peut-être aussi des illustres inconnus qui avaient peut-être autant de talent et qui n'ont pas bénéficié des réseaux. Voilà. Et tout ce que vous dites là est bien évidemment frappé au son du bon sens. Maintenant, il y a moi, j'ai pas envie de donner des noms et je trouve que effectivement, quand on personnalise ainsi, c'est sans doute violent pour les personnes concernées. Mais clairement, on a un problème. Le népotisme est un problème de société. Et attention, c'est valable pour d'autres secteurs qui sont aussi recherchés, la réussite économique, etc. Dans le monde des entreprises, il y a aussi énormément de népotisme. Et c'est un vrai souci.
Et puis, sur des films à petit budget, quand t'es fille ou fils d'acteurs connus, tu vas avoir des papiers. On va parler de ton film parce que t'es fils ou fille d'acteurs connus. Alors que si le premier rôle avait été donné juste à un débutant lambda, personne n'aurait parlé.
Mais lui, il a eu plus de chances que moi, travaille encore plus dur, tu finiras par y arriver.
Il faut expliquer, dans le cinéma, il y a des films qui n'existeraient pas si l'acteur ou l'actrice principale n'avait pas un nom connu. C'est-à-dire que le réalisateur, pour faire son film, il a besoin d'argent. Il va voir les producteurs, ils disent voilà, il me faut 20 millions d'euros pour faire le film. Les producteurs disent ok, mais si on connaît les stars, si on connaît l'acteur, et il a plus de chances de trouver les 20 millions d'euros s'il dit je vais embaucher le fils ou la fille d'eux, plutôt qu'un acteur inconnu que j'ai casté au
confort. Mais toi, en tant qu'acteur débutant, moi je trouve que ça ne t'enlève rien. Le succès des autres ne t'enlève pas. Moi je suis pas d'accord avec cette vision de la vie. Voilà, je ne jalouse pas ceux qui ont eu une vie d'avance sur moi.
Et puis malgré
qu'ils ont eu ce truc d'avance, mais si, parce que c'est un sujet très jeune.
Malgré tout, quand on monte un film, on a besoin de faire des entrées. L'économie veut qu'on fasse des entrées. Si on prend des mauvais acteurs au prétexte qu'ils sont seulement les fils ou les filles d'eux, au final, le film est mauvais, il fera pas d'entrée. Donc, il faut arrêter aussi.
Il fera parler de lui, il fera de la presse.
Mais s'il fait pas d'entrée, en même temps, le bouche à oreille, c'est très important dans le cinéma.
Il fera pas d'entrée non plus. Donc,
on a plein de contre-exemples. Donc, en réalité, le tout, c'est de faire la part des choses entre certains cas qui peuvent énerver, mais qui ne durent jamais très longtemps, et certains cas où, effectivement, ils ont eu un coup de pouce au démarrage, mais malgré tout, ils se sont révélés très bons, parce que sinon, ils ne durent pas, parce que sinon, les films, ils sont mauvais derrière.
Alors, on a Gilles qui est avec nous, il nous appelle de Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Alors Gilles, vous, votre fille fait des études de cinéma, c'est ça?
Eh oui.
Ah, vous n'êtes pas acteur, Gilles, je sens.
Alors, si. Ah. On adore, on a une grande confiance en notre fille. Elle est très débrouillarde et elle vient encore nous le montrer là, la semaine dernière, puisqu'elle s'est rendue une semaine à Cannes là, pour commencer à distribuer des flyers, des cartes de visite, tout ça. Mais étant donné effectivement qu'on est, ni mon épouse ni moi, absolument pas du milieu, qu'on n'a aucune entrée dans le milieu et tout, et qu'elle a choisi cette voie-là sur 3 ans, donc elle est en 2e année, et en plus, son credo à elle, ce serait plutôt la production.
D'accord.
Donc là, au niveau là, de la production, on ne voit pas vraiment du tout comment elle va pouvoir faire ses entrées, se faire connaître. Alors bon, elle parle déjà de travailler en tant qu'assistante prod dans un premier temps, évidemment. Hein, elle va commencer en bas de l'échelle. Et puis on espère qu'elle pourra gravir progressivement les barreaux. Mais voilà, on est quand même pas foncièrement inquiet au point de se faire du sang d'encre. Hein, mais on se questionne quand même sur son avenir, sur ses possibilités de pouvoir un jour percer dans ce milieu qui, effectivement, est un petit peu préempté par les non-connus, quoi.
Mais est-ce que votre fille, elle a des camarades de promo ou dans son école, des fils et filles d'eux, justement, qui pourraient lui passer devant ?
Non.
Bon, bah donc elle est à égalité avec tout le monde, alors ?
Où elle est actuellement, en tout cas, ça c'est sûr.
D'accord. Mais est-ce que vous avez l'impression, justement, son manque, le fait que vous, avec votre épouse, vous ne soyez pas dans le milieu, ça peut lui porter préjudice ?
Alors non, pas préjudice, mais par contre, bah, comme vous le dites...
Il n'y aura pas le petit coup de pouce, quoi.
Voilà, mais et puis dans l'école, comme vous le dites, il n'y a pas de fils et de filles d'eux. Donc ça veut bien dire qu'ils n'ont pas besoin de passer par les écoles.
Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, enfin, oui.
C'est pas totalement faux. Quand
enfin, pour faire de la production, t'as quand même intérêt.
Il y a aussi la formation sur le tard et pour avoir quelques contacts dans ce milieu-là, je t'assure que ça existe.
Bon, bah écoutez, bon courage pour votre fille, en tout cas, Gilles.
Je comprends tout à fait que ceux qui travaillent effectivement déjà dans le milieu, s'ils y entraînent leurs enfants, ben c'est sûr que les enfants, ils vont être comme dit, Benjamin, ils vont être formés sur le tas, effectivement. Ouais. Ils vont suivre leurs parents sur les plateaux, ils vont pouvoir avoir des trucs que nous on peut pas faire.
En fait. Ils auront pas de problème pour trouver des stages.
Et voilà. Alors voilà, là, ça c'est la. Alors,
oui, plus, c'est voilà, vrai.
Si je peux proposer RMC, hein, si toutefois ma fille a un stage à faire.
Eh ben, vous nous envoyez sa candidature. Merci Gilles, en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis bon courage à votre fille. Ça se déchaîne sur le WhatsApp, Charles.
Sophie qui nous dit, mais il faut voir aussi que c'est une pression immense d'avoir un parent connu et reconnu. Il faut être à la hauteur aussi de cette notoriété. Bah si, c'est vrai qu'il y a une forme de pression pour ces acteurs quand ils sont fils ou filles d'eux ou ces musiciens. On les attend au tournant. J'ai Max qui nous dit, bah moi je suis prof de tennis. Mes enfants sont donc plus entraînés que beaucoup d'autres enfants. Ils jouent mieux que la plupart des autres. Mais par ailleurs, ils sont nuls en musique, par exemple. Est-ce que c'est grave ou scandaleux? Je ne crois pas. C'est juste qu'on est juste défini en partie par nos parents, nous écrit Max. Et
oui,
puis
mais le fils de Max, s'il perd tous ses matchs, il ne montera pas de classement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, c'est pas subjectif.
Oui, oui.
Le sport, c'est pas subjectif. C'est vrai. Encore une fois, le tennis, si t'es mauvais, t'es mauvais. Exactement. Tu seras pas Roland Garros. Oui. En revanche, tu peux être le plus mauvais acteur du monde et avoir le premier rôle dans un film.
Non.
Et ça,
non.
Bah, bien sûr,
mais
merci.
Non. Mais non, ça n'arrive
le
pas.
Le jour où il y a le fils
non.
de.
Vous allez trop loin.
Mais le jour où il y a un enfant de Brad Pitt et d'Angelina Jolie qui veut faire du cinéma, bah, il est pris tout de suite.
Mais donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple français. Pour avoir le premier rôle dans un film à succès, il faut être bon. Donnez-nous un exemple français.
Dans le mannequinat, il y a 2-3 noms. Tu te dis, ok, si ça n'avait pas été le fils ou la fille d'eux, est-ce qu'ils auraient fait carrière? Tu vois, je suis désolée.
Le
petit Beckham, bon bah pardon.
Il a publié un livre, je ne suis pas sûr qu'il a un talent littéraire incroyable. Enfin,
tu vois, le petit Beckham, franchement, pardon, ah, tu le vois, bon bah oui, bah oui, ah, bah, c'est un adolescent, ah bah super. Mais alors, il n'a rien. C'est-à-dire que, enfin, voilà, j'ai pas son âge.
Il est influenceur en soi.
Je ne sais pas ce qu'il fait.
Bah alors, vous dites n'importe quoi. Alors, le mec, il est influenceur, il a fait monter ses réseaux sociaux grâce au.
Non, il a défilé pour des marques, mais en vrai, c'est lambda.
Mais est-ce qu'on a un nom de fils ou de fille de comédien qui a eu un premier rôle dans un film en France?
Bah oui.
Moi, je veux pas qu'il soit mauvais. Qu'il soit mauvais, évidemment.
Pas de mauvais. Mais des médiocres. Des comédiens médiocres, moi j'en ai quelques-uns en tête.
Faut lire l'enquête de Marianne et vous avez quand même des acteurs et des actrices qui sont propulsés comme ça sur le devant de la scène. D'ailleurs, il y en a qui ne durent pas.
Oui.
Alors qu'ils
ne durent pas.
Mais ils ne durent pas, c'est ce qu'on dit. Ils ne durent pas.
Mais ils ont eu leur chance.
Mais ils ont eu leur choix
là. Où beaucoup de très bons n'auront jamais leur chance.
Est-ce qu'on soulève les mauvais qui ont eu leur chance sans être fille ou fille d'eux?
Bah, c'est quand même compliqué de dire lui il est nul et donc c'est parce que c'est le fils ou la fille d'eux.
Mais non, mais s'il est nul juste parce qu'il est nul, il a été pris parce qu'il est nul, il n'est pas fils ou fille d'eux, on n'en parle pas lui.
Il est nul, mais lui, il a le droit.
Bah, on va rien dire.
Et je sais qu'il y en a un.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont nuls sans avoir des parents connus.
Et Jean-Christophe nous écrit sur WhatsApp. Le problème, c'est souvent que leurs parents, qui sont des grands acteurs, de grands musiciens, passent leur temps à nous faire des leçons de morale sur la mixité, l'égalité des chances, les belles valeurs.
C'est vrai aussi.
Avant de pistonner leurs gamins pour qu'ils prennent toutes les places, il y a aussi un problème de valeurs dans ce monde de la culture, nous écrit Jean-Christophe.
C'est vrai. Est-ce qu'à la CGT, justement, il y a des filles Est-ce qu'il y a les enfants de Philippe Martinez
Non, mais dans le militantisme, il y a des. Alors, c'est clair que dans le militantisme ou dans la vie politique et syndicale, oui, il y a des gens qui ont baigné dans le bain et donc qui pour qui c'était quelque chose de naturel. Mais là encore, pour faire un bon militant, un bon dirigeant syndical ou politique, malheureusement, c'est pas dans l'ADN. Donc là aussi, il y a des gens qui, mais la plupart du temps, ça se termine pas très bien.
Juliette Briens, admettons, vous avez une fille ou un. Vous avez un enfant.
Je pistonnerai, mais autant que je peux. Je lui donnerai toutes les opportunités que je peux lui offrir. Je veux le meilleur pour mon enfant, c'est une évidence.
Ça, c'est naturel.
Mais oui, c'est naturel. Donc pourquoi on prise?
Tu peux lui dire, au contraire, écoute.
Je lui trouverai des stages, je le mettrai en relation avec les bonnes personnes.
Mais tout le monde fait ça, elle a raison. Mais
je remplirai l'UICM à sa place.
C'est bien tout le problème.
Mais non, tout le monde ne fait pas ça. Mais non, non.
Écoute, mais je crois pas. Vous ne passerez jamais un coup de fil pour trouver un stage à un de vos enfants?
Je le fais parfois pour les amis, mais le retrouve pour les amis de la famille, donc je le ferai encore plus pour mes enfants.
C'est bien pour ça qu'il faut cadrer le népotisme, parce que c'est une tendance naturelle. C'est bien pour ça.
Mais écoutez, on n'est pas obligé de faire ça. Est-ce que vos parents ont passé des coups de fil?
Alors non, mes parents n'ont pas passé des coups de fil, mais enfin j'ai une situation familiale un peu particulière. Mais est-ce que j'en passerai pour mes enfants? Sans doute que oui, évidemment.
Et Aurélia pose la question à Estelle: si vos enfants voulaient être journalistes comme vous,
je les ai découragés.
Est-ce que vous
voulez... Je les ai découragés.
S'ils voulaient absolument le faire,
je les ai découragés. Voilà.
Ils n'ont pas le choix, quoi.
Je les ai vraiment découragés. Non, la question s'est pas posée pour ma fille, mais mon fils à un moment aimait bien. Je l'ai bien découragé. En vrai, j'aurais été très mal à l'aise. Voilà, de passer un coup de fil, parce qu'en plus, je me serais senti une pression de fou en me disant, si jamais il est pas bon ou elle est pas bonne, ça va me retomber dessus. Et derrière, en fait, j'aurais été extrêmement malaise et je crois que j'aurais préféré ne rien faire et puis voilà, pour pas avoir la pression, pour pas qu'on dise c'est l'enfant d'eux, etc. Enfin,
mais si il avait voulu travailler dans les médias, pas sur le devant de la scène, par exemple, tu serais pas allé lui trouver des stages de backstage?
Il l'aurait trouvé. J'aurais dit que dans ce métier, en fait, quand tu arrives à trouver ton stage toi-même, c'est que déjà t'as un petit truc en plus, donc pour le coup que tu réussiras. Si t'attends de papa et maman qui te trouvent tout, tu réussiras pas, en fait. Tout simplement,
on est dans une société où le népotisme est à tous les étages, et c'est là que c'est très problématique quand on vous sollicite, parce qu'en réalité ça marche pour tout le monde. Et moi j'estime que c'est un fléau, mais en réalité il y a énormément de secteurs, pour pas dire vraiment la plupart, où ça fonctionne comme ça.
Bah oui, mais la vie est faite de pistons. C'est Aurel qui
vos
nous le dit.
Parents font quoi, Charles?
C'est Aurel, rien à voir avec le métier. Ma mère était secrétaire. Non, rien à voir.
Très bien. Vous n'avez pas été pistonné.
Non, pur mérite. Mais oui.
Bravo, Charles.
Mais du coup, je ne monterai jamais les marches du Festival de Cannes. Cette carrière d'acteur à côté de laquelle je suis passé.
Il y a d'autres choses importantes dans la vie.
Il faudra attendre pour mon premier album, malheureusement. En attendant, on vous a posé la question: cinéma, musique, politique, est-ce qu'il y a trop de fils et de filles d'eux? Vous avez répondu, je fais du reste suspense, mais il n'y a pas photo. Hein. Oui, à 91%.
Et voilà.
Les gens sont
très large majorité.
Des jaloux et des rageux.
Oui, 91% de rageux.
C'est ça, ça doit être ça. Dans un instant, on n'arrête pas le progrès. On va vous parler de nouveaux robots. Ce sont des robots animaux de compagnie. C'est génial, on n'a pas à les sortir. Il ne faut pas enlever leurs besoins et tout ça. Donc c'est quand même hyper pratique.
Ça coûte moins cher en croquettes.
Oui, mais ça doit coûter plus cher à l'achat. On en parlera
donc. On est rechargé, non?
Oui, et puis, vous savez.
T'as branché le chien?
Non. Mais non, mais pour les personnes âgées qui ne peuvent plus trop sortir.
Ah oui.
Tu vois, en maison de retraite, souvent ils n'acceptent pas les animaux. Bah là, tu arrives avec ton robot chien. On ne peut rien te dire.
Pour changer les piles du chat.
Bon, on en parlera dans un instant, et puis ensuite le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC, et on parlera de ces nouvelles plaintes contre Patrick Bruel, et puis on parlera également de cours d'éducation financière à l'école. Ça va bien plaire à Benjamin Hamar, ça, à tout de suite.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
Et on va regarder vos messages, évidemment, sur WhatsApp, parce que vous continuez de réagir en direct. Alex nous dit, moi, je suis jaloux du fils de mon boucher. Mais vous vous rendez compte, c'est inadmissible. Il travaille dans la boucherie. Il profite de la notoriété de son père pour avoir des pistons. Non, mais il faut arrêter un moment d'être jaloux de tout le monde. Chacun se débrouille dans son parcours. Voilà ce que nous raconte Alex. J'ai aussi le message de Silviano qui nous dit, si les enfants ont du talent, pourquoi les stigmatiser? Pourquoi les empêcher de suivre les traces de leurs parents? Ils vont aussi devoir faire deux fois plus leurs preuves pour sortir de l'ombre de leurs parents, estime Silviano. Et puis j'ai Raymond qui nous dit, moi je suis d'accord avec Juliette, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de faire le même job que leurs parents. Ils ont baigné dedans depuis tout le temps, depuis tout petit. Ils sont sûrement formés depuis le plus jeune âge pour ça. Donc oui, ils méritent souvent leur place. Ils ont dû se battre comme les autres, estime Raymond. Vous continuez évidemment de réagir en direct à tout ce que vous entendez, à tous nos débats sur le WhatsApp au 0612 424 424 et vous prenez la parole au 3216.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, on n'arrête pas le progrès avec Léa Benaïm.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et on va parler animaux de compagnie avec vous aujourd'hui, Léa, mais animaux de compagnie 2.0. On va parler de robots chats et de robots chiens.
Ouais, des pets robots. Ils s'appellent Noah et Nico. Alors, c'est des petites boules de poils dopées à l'intelligence artificielle. Ils ont été dévoilés au CES de Las Vegas et je les ai vus à Noël. Et franchement, c'est pas du tout flippant. Ils sont même assez mignons. Alors, l'idée est simple. Proposer les avantages d'un animal de compagnie sans les contraintes. Plus besoin de sortir le chien, d'acheter des croquettes. Il n'y a pas de poils dans la appartement aussi, ça c'est très pratique, mais quand même cette sensation un peu mignonne de présence à la maison, c'est un peu plus qu'un Tamagotchi, tu vas voir, c'est un robot, donc ça a été lancé par Switchbot, c'est une entreprise chinoise qu'on connaît pour ses aspirateurs robots et ses objets connectés, le fabricant les appelle les Catafriends, c'est chou non comme nom, non?
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient?
Non, alors ils aboient pas, ils font pas de bruit, je suis désolée. Ouais. Mais ils font plein de choses, ils sont bourrés d'intelligence artificielle, de caméras, de capteurs tactiles. Ils peuvent circuler en liberté dans la maison, éviter les obstacles. Et tout à l'heure, je vous entendais avant la pub, pour se recharger, ils vont tout seuls à leur petite station de recharge, comme les aspirateurs robots. Oui, la nuit, ils vont dormir dans leur petit enclos. Non,
ils font des câlins.
Oui, ils font des câlins. En fait, ils ont des zones tactiles sur le corps, 12 zones tactiles. Et quand on les caresse à cet endroit, et ben ça peut un petit peu ronronner, ça fait des interactions physiques. Leurs yeux affichent des émotions parce qu'ils ont des petits écrans à la place des yeux. Ils sont même capables de reconnaître les membres de la famille avec qui ils vivent parce qu'ils ont des caméras. Et petit plus, pour les rendre encore plus humains, ils adaptent progressivement leur comportement selon les habitudes du propriétaire. Vraiment comme le ferait un vrai chien, en fait, ou un vrai chat. Et plus on interagit avec eux, plus ils développent une forme de personnalité. Donc, on n'est plus du tout dans le Tamagotchi ou dans le Furby.
Alors, du coup
ils ne meurent pas, hein. Il meurt pas du tout. Ça c'est quand même l'avantage d'un animal. Bon, ils peuvent mourir si vous les balancez parce que c'est quand même un objet un peu tech avec une batterie. Peut-être que si vous les mettez dans une baignoire, ils meurent. Oui. Et c'est pas le but.
Et du coup, on va pas les attacher au lampadaire parce que là, si t'abandonnes,
on va pas les.
Mais
ça vous tente pas.
C'est pas non plus avec les vrais animaux, Estelle.
Hein, ça tente personne autour de la table, ces petits jouets mignons. Non, personne n'est convaincu.
Ça coûte combien?
Un petit enfant.
Ouais, ça coûte 600 euros à l'achat.
Ah, quand même.
Un chien, c'est le double. Un chien ou un chat, c'est le double.
Mais ça n'a rien à voir.
Et après.
Je veux dire, on compare.
Oui, c'est vrai. Et après,
C'est une peluche, c'est pas.
Et il y a un abonnement à 10 euros par mois. Bah oui, parce qu'en fait, il faut les fonctions d'IA, les mises à jour. C'est vraiment un petit objet par défaut.
Je suis abonné à mon chien.
Quand on le caresse, il réagit, il reconnaît les gens. Il y a une caméra. Il peut prendre en photo aussi. Si vous avez un dîner de famille. L'abonnement c'est pour ça. Après vous pouvez l'avoir sans abonnement, mais vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités en plus.
Il y a vraiment des gens qui achètent ça.
Il y a vraiment des gens. Alors si vous regardez un petit peu les vidéos, c'est en Asie principalement parce qu'ils sont fans de ce genre de petit objet. Je suis pas sûre que ça marche en Europe, mais c'est quand même mignon.
Avec les enfants ça va cartonner.
Mais oui.
Et les enfants.
Non, et les seniors.
Et les seniors dans les maisons de retraite. Tu le disais, Estelle, qui sont seuls. Ils n'ont pas la force,
l'angoisse dans les EHPAD.
Si ça peut soulager un peu la pression de mettre tes enfants pour
acheter un animal électronique pour ta grand-mère, c'est que
ça devient compliqué.
C'est quand même que
pour ceux qui sont allergiques aux petits chiens.
Du contexte, cette phrase est étrange. Non mais
je vous laisse là-dessus.
Non mais Christa, non mais c'est vrai. Si tu te dis bon, attends, on va acheter un chien électronique pour mamie, c'est qu'a priori ça
mamie
elle est
va
pas en
pleine
forme.
Longtemps.
Quoi. Voilà, c'est hein,
ouais.
À peu près.
Ouais, bah. Mamie n'est pas en forme.
C'est ça. En tout cas, on peut les acheter en France ou pas?
Oui, c'est en précommande depuis cette semaine.
Ah d'accord. Vous rappelez le site?
C'est le nom de l'entreprise. Pas. Si, je vais l'avoir. C'est Switchbot.
Switchbot pour avoir un chat ou un chien électronique. Bon, l'avantage, c'est quand même qu'on n'a pas à les changer. Donc, ça, c'est top.
Exactement.
Et on n'a pas à les sortir sous la pluie.
Et allergie aux poils d'animaux aussi.
Ah, bah oui, parce que ce sont des faux poils.
Exactement. Évidemment. Ils ressemblent à des koalas.
Oui, alors, oui, c'est ça. Bah, achetez-vous
un koala.
C'est
pour donner une dimension un peu mignonne.
Oui, et puis pour qu'on ne reprenne pas pour un vrai chien et un vrai
chat. Exactement, oui, il faut pas confondre.
Aussi, merci beaucoup, Léa Benaïm. On n'arrête pas le progrès. C'est tous les jours, 12h50, dans Estelle Midi. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera de nouvelles plaintes contre Patrick Bruel. On parlera également de l'installation de poulaillers géants. Vous savez, ce sont ces fermes avec des milliers de poulets qui veulent s'installer. Mais c'est très compliqué parce que les riverains ne sont pas trop d'accord. Et puis, on parlera des cours d'éducation financière à l'école. À tout de suite.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.